un temps pour lire.
Nous parcourons aujourd'hui un ouvrage qui nous emmène dans les Alpes, tout près de Chamonix. Qualifié dès les premières pages de cet ouvrage de montagne oubliée, les Grandes Jorasses sont ici à l'honneur, comme une muraille entre deux vallées. Ce beau livre, nous allons le feuilleter en compagnie de son auteur, Claude Gardien, guide de haute montagne, grimpeur, skieur, écrivain, photographe. Il fut rédacteur en chef de Vertical et il est en ligne aujourd'hui avec nous. Claude Gardien, bonjour. Merci d'être avec nous, donc au micro de Radio Semnose. Alors vous êtes Dijonnais et vos premières falaises étaient bourguignonnes. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir grimper à l'origine ?
À l'origine, les vacances familiales. On allait toujours à la montagne. Mes parents faisaient de la randonnée, des randonnées plutôt faciles. Hein. Ils n'ont jamais été très très sportifs, mais moi tout gamin... Les montagnes, c'était synonyme de vacances, et puis ça m'a très vite plu, l'effort de la montée, le sommet, ça m'enthousiasmait. La famille de ma mère étant originaire du Jura, on faisait aussi pas mal de randonnées sur les crêtes du Jura et de là-haut. La vue sur le massif du Mont-Blanc, les neiges éternelles, on appelait ça, c'est vite devenu un fantasme. Donc dès que j'ai pu, j'ai commencé l'escalade dans les falaises de Bourgogne, et 3 mois après j'étais à Chamonix.
Claude Gardien, vous êtes arrivé à Chamonix, donc vous nous le disiez juste après les falaises de Bourgogne. Vous avez parcouru évidemment énormément de montagnes à travers le monde. Qu'est-ce qui vous a amené à avoir une affection particulière pour les Grandes Jorasses ?
C'est une montagne assez unique. Et avec donc les éditions Glénat, on avait l'idée d'inaugurer une série sur les grands sommets. Et bon, on a cherché un sommet un peu emblématique pour... donner le ton de cette série, et très vite les Grandes Jorasses sont arrivées sur le tapis dans la mesure où elles présentaient toutes les caractéristiques qui pouvaient faire rêver, c'est-à-dire une histoire ancienne hein, qui commence en 1865 et une cristallisation sur la face nord dans les années 30. Cette face nord, elle faisait partie de ce qu'on appelait les trois derniers grands problèmes des Alpes, les trois grandes faces nord, avec la face nord de l'Eiger et celle du Cervin. Et donc, de 1930, on va dire, à 1938, la conquête de ces faces nord a fait l'objet d'une compétition intense. C'était vraiment le feuilleton tous les ans. Et les Grandes Jorasses n'ont jamais quitté le devant de la scène. L'alpinisme y a évolué sur toutes les faces, que ce soit la face sud, qui a été la première gravie, puisque la plus facile, mais on y a ouvert encore récemment des itinéraires difficiles, et la face est, qui était la face cachée, qui a réémergé récemment dans l'imaginaire des alpinistes. Donc on avait depuis 1865 jusqu'à aujourd'hui, début du 21e siècle, des histoires à raconter. Donc les Grandes Jorasses, hormis le fait qu'en tant qu'alpiniste, on a très vite envie d'aller faire les Pont Walker dès qu'on en est capable, c'est vraiment quelque chose qui peut intéresser les alpinistes. C'est vraiment une montagne unique. Je pense, personnel, que c'est la plus belle des trois montagnes qui forment ces trois derniers problèmes. À cause de la qualité des itinéraires, à cause de la qualité de son rocher et à cause de la variété de tout ce qu'on peut y réaliser.
Pourtant, au départ de votre ouvrage, vous indiquez que c'est une montagne muraille qui est oubliée.
Alors, elle est oubliée parce que, côté français, bon, elle n'est pas dans les cordes des alpinistes du 19e siècle, c'est évident. Et puis, il reste quand même pas mal de choses. Elle est bien visible du Val Ferret ou de certains coins de la vallée d'Aoste, mais les alpinistes ne se sont pas précipités. C'est assez curieux, et effectivement, parce qu'elle était vraiment faisable à ce moment-là, et elle a été gravie avec désinvolture par Edward Wimper et ses guides, qui n'y accordaient pas une grosse importance. En fait, le but de leur excursion, c'était d'atteindre un point d'observation de l'aiguille verte. Parce que l'aiguille verte, elle, c'était quelque chose qui était identifié comme un sommet très difficile, qui marquerait l'histoire de l'alpinisme. Et en fait, Wimper voulait observer l'aiguille verte sur son versant sud, le versant dont il se doutait que c'était par là qu'on réussirait à faire la première.
Claude Gardien, ce que vous écrivez là, à travers les Grandes Jorasses, c'est un récit d'aventure en fait que vous nous proposez. De quelle manière est-ce que vous avez choisi de le construire ?
J'ai suivi tout bêtement l'histoire l'histoire de façon chronologique, en m'attardant sur les trois faces distinctes, enfin au début les arêtes, puis la face sud, les premières tentatives à la face nord, la face est, en suivant l'évolution de l'alpinisme, car c'est une montagne qui a marqué toutes les époques de l'alpinisme. Donc c'est la façon la plus facile d'aborder cette montagne-là, je pense.
Vous nous parliez tout à l'heure de Whymper, qui a donc gravi les Grandes Jorasses en 1865, ce fut le premier. Est-ce qu'il y a d'autres alpinistes qui, selon vous, ont marqué par les ascensions qu'ils ont réalisées des Grandes Jorasses ?
Indubitablement, il y a Riccardo Cassin, l'Italien, qui en 1938 gravit les Pronts Walker. Alors, à l'époque, il est inconnu en France, il a fait des grandes premières dans les Dolomites, il a fait une grande première dans le Val Bégraglia, la face nord-est du Piz Badil, qui fait partie des grandes faces nord des Alpes, et il a une expérience en granit qui est limitée, à part cet exploit, et du premier coup, alors qu'il ne sait même pas où se trouve la face nord des Grandes Jorasses, il demande son chemin en route dans les refuges qu'il croise, Cassin va réussir un chef-d'œuvre absolu. Les Pronts Walker par la voie Cassin, encore aujourd'hui, c'est le rêve de tout alpiniste. Il a réussi la voie la plus difficile de son époque, en haute montagne, et il a réussi sans doute la plus belle. Les Pronts Walker par la voie Cassin, aujourd'hui, c'est encore identifié par les alpinistes comme une des plus belles voies du monde.
Alors vous nous indiquez là, Claude Gardien, l'une des voies que vous préférez certainement. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce qu'il y a un endroit par lequel vous aimez passer tout spécifiquement ?
Ben, on passe toujours avec beaucoup d'émotion au pied de la face nord. Curieusement, elle nous appelle. C'est quelque chose qui est tellement beau, qui porte une telle histoire qu'il y a une attirance. Elle ne fait pas peur comme peut faire par exemple la face nord de l'Eiger qui a eu une histoire beaucoup plus dramatique dès le début. La qualité de son rocher, la connaissance qu'on a de la beauté de ses escalades, ça nous attire. Après, j'ai envie de dire que tout est beau aux Grandes Jorasses. Quand on regarde les Grandes Jorasses depuis le Val Frais italien ou alors qu'on se promène sur les crêtes en face, c'est une montagne immense avec une architecture complexe qui s'élève directement d'une vallée qui est assez riante. C'est un spectacle qui fait envie. On a aussi envie d'aller faire la voie normale ou une des voies plus compliquées qui sont sur ces flancs. Et puis il y a tout un côté sud-est et est qui regarde donc le fond du Val Ferret en direction de la Suisse, qui sont des versants plus secrets. Et pour les alpinistes, c'est le moment de s'arrêter et de les regarder, de les observer, de s'imaginer dedans, de repérer les itinéraires qui ont déjà été ouverts, parce que ce sont des endroits qu'on voit rarement. Et en particulier la face est, qui est d'un monolithisme absolu, c'est un mur de dalles de granit doré, qui est vraiment un appel à l'escalade pour les gens qui aiment grimper du granit. Donc, est-ce qu'il y a un endroit particulier que j'aime ? Non, j'aime les Grandes Jorasses.
Ça, c'est manifeste, effectivement. Alors, puisque vous parlez de regarder, Claude Gardien, dans votre livre, il y a évidemment de nombreuses photos où la montagne s'impose dans sa majesté, où l'on voit aussi l'homme en train de la gravir. Ces photos ont diverses origines. Comment est-ce que vous avez fait le choix ? Vous avez souhaité brosser un tableau, évidemment, mais j'imagine qu'il y a des photos qui sont particulièrement chères à votre cœur.
Les photos historiques sont chères à mon cœur. Je vous ai parlé de Riccardo Cassin. C'est un homme que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Et les photos historiques parlent, pour moi, c'est touchant. Surtout quand on peut voir le matériel avec lequel ces gens-là ont gravi ces itinéraires difficiles. Après, il y a toute une série de photos plus modernes où, grâce au matériel d'aujourd'hui, avec des appareils plus compacts, avec l'avènement du numérique qui fait qu'on n'a pas besoin d'emmener de pellicule, de faire des manipulations complexes, etc., on peut pénétrer dans l'action de l'alpinisme. Et il y a des alpinistes qui sont devenus d'excellents photographes d'action. Je les remercie beaucoup d'avoir bien voulu nous confier leurs photos, qui sont des photos rares. Il faut quand même, quand on est dans les Grandes Jorasses, et qu'on est en train de gravir une voie difficile, même avec le matériel d'aujourd'hui, c'est une contrainte de prendre des images. Donc ces images, elles ont une vraie valeur. Et surtout, elles nous montrent ce que c'est que l'alpinisme moderne. C'est direct life, en gros. Hein. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance pour le travail qu'ils ont fait, et qu'ils font toujours d'ailleurs.
Eh bien voilà, nous retrouvons tout cela dans le livre de Claude Gardien, sobrement intitulé « Les Grandes Jorasses », disponible aux éditions Glénat. Il se lit, je vous assure, comme un roman, il fera rêver une bonne part d'entre nous, et puis donnera certainement à une autre part l'envie de gravir ou de gravir à nouveau la montagne. Je vous remercie beaucoup, Claude Gardien, de nous l'avoir présenté.
C'est moi qui vous remercie.
Avec grand plaisir. Au revoir.
Au revoir.